La réunion ce matin de l'état-major de sécurité autour du haut-commissaire et du procureur de la République. Les chiffres de la délinquance 2024 y ont été dévoilés. Les détails dès le début de ce journal. Une première depuis 30 ans, la consommation d'électricité a chuté en 2024, une baisse liée à l'arrêt de KNS et au ralentissement de l'activité de la SLN et de Prony Resources. La distribution publique aussi est en recul. Le FSH et la Banque des Territoires accompagnent les bailleurs sociaux de Nouvelle-Calédonie. Une aide bienvenue non plus pour la construction, mais plutôt la réhabilitation de 200 logements ou le gros entretien de près de 2000 logements. L'économie calédonienne est confrontée à une absence de perspective. C'est ce qu'indique l'IOM. La plupart des indicateurs stagnent à des plus bas niveaux historiques. Et puis le sport et du cricket féminin et des débuts compliqués pour l'équipe de France au tournoi international. L'équipe de France, composée intégralement de joueuses calédoniennes, s'est lourdement inclinée 123-45 devant le Vanuatu. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal à la une de l'actualité. La réunion donc ce matin au commissariat d'un état-major de sécurité. Une instance qui réunit autour du haut-commissaire et du procureur de la République les acteurs de la sécurité, de la justice, mais aussi plus largement de l'éducation et de l'enseignement. Jean-François Bonin.
Et lors de cet état-major de sécurité, les chiffres de la délinquance en Calédonie ont été présentés. Des chiffres sans surprise qui ne sont pas bons, puisqu'ils montrent clairement, et là encore ce n'est pas une surprise, un effet émeute débuté le 13 mai 2024, souligne le haut-commissaire Louis Lefranc.
Il y a une hausse des atteintes aux biens qui est extrêmement forte, des destructions qui est extrêmement forte. Sur la ville de Nouméa et son agglomération, ce qui est constaté, c'est qu'il y a 40% des mineurs qui sont mis en cause. Mmh. Donc ça traduit assez bien le profil des émeutiers. L'année 2024 n'est pas un prisme, c'est une réalité. Et donc ça nous impose pour l'année 2025 à redoubler de vigilance et à mobiliser des moyens considérables, hein, des moyens de gendarmerie mobile. Une vingtaine d'escadrons ont été déployés sur le terrain depuis de nombreuses semaines et vont être maintenus pendant toute l'année 2025. S'il devait se produire une tendance qui serait de nature à nous faire penser qu'il puisse y avoir de nouvelles émeutes, eh bien, ces moyens seront considérablement renforcés. C'est l'état d'esprit qui est de nôtre.
Dans le détail, et pour ne citer que ces chiffres-là, les atteintes aux biens sont de manière globale en hausse de 33% par rapport à 2023. Mais au sein de cette catégorie, on constate par exemple une hausse de 92% des destructions et dégradations. Les atteintes aux personnes sont en hausse de 9,2% en général, mais les violences physiques crapuleuses sont en hausse de 39,4%. Il est à noter par ailleurs, et ce sont quasiment les seuls chiffres en baisse, que les violences intrafamiliales ont baissé de 18% et que les violences conjugales ont baissé de 22,5%. Baisse également sensible du nombre de morts sur les routes de Calédonie. Mais cela s'explique grandement par les mesures de couvre-feu qui ont été mises en place pendant de longs mois en 2024. Les violences débutées en mai 2024 ont essentiellement touché Nouméa et les communes de l'agglomération avec près de 18 000 faits de violences constatés sur Nouméa, Dembéa, Le Mondor et Païta. Des actes de délinquance qui sont en baisse dans l'agglo depuis le début de l'année 2025, mais qui semblent désormais se déplacer, si l'on peut dire ainsi, aux îles et dans le nord. Écoutez à ce sujet le général de division Nicolas Mathéos, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
L'île de Marais qui connaît des moments difficiles depuis quelques mois en raison de cette jeunesse, d'une partie de sa jeunesse qui est allée à Nouméa, qui a pris de mauvaises habitudes et qui est retournée à Marais, qui a exporté ses mauvaises habitudes. Je pense aussi à Koné qui est traversée en ce moment par des vents contraires, qui est habité par une certaine violence de la part de sa jeunesse. J'avoue que j'ai une certaine inquiétude en ce qui concerne une partie de la jeunesse calédonienne qui continue à adopter des comportements violents, qui est complètement sous l'emprise de l'alcool, du cannabis, qui est déstructuré, qui est perdu, qui a peut-être trouvé dans le 13 mai une manière d'exprimer son mal-être, mais en tout cas qui aujourd'hui connaît une évolution inquiétante et la gendarmerie comme la police ne peuvent pas être seuls à trouver des solutions vis-à-vis de cette jeunesse qui s'est perdue dans une forme de délinquance habituelle.
En prenant connaissance des chiffres de la délinquance, on constate que l'alcool et le cannabis restent de véritables fléaux et de très nombreux jeunes, notamment des mineurs, présentent une addiction soit à l'alcool, soit au cannabis. Concernant l'alcool et après un week-end pour le moins agité à Nouméa, les services du Haut-Commissariat étudient la possibilité de faire évoluer les mesures de police administrative sur le sujet. Lors de cet état-major de sécurité réuni ce matin, les participants ont également évoqué les priorités pour 2025, s'agissant de l'action des forces de l'ordre et des actions de lutte contre les différentes formes de délinquance. Écoutez à ce sujet le contrôleur général Marjorie Ghisoli qui dirige la direction territoriale de la police nationale.
Je tiens beaucoup à ce qu'on puisse travailler sur, je dirais, des diagnostics de sécurité de secteur et de quartier, parce qu'on ne travaille pas de la même manière sur les baies de Nouméa, comme on travaille dans le centre-ville et comme on travaille dans les quartiers périphériques. D'où l'importance de mener sur ces différents secteurs-là une stratégie adaptée de lutte contre la délinquance et de visibilité. Pas question d'avoir de la police là où il ne se passe rien. Pas question d'avoir de la police aux heures où il ne se passe rien, mais vraiment cette adaptation-là, je crois que c'est la clé de l'efficacité. Je vous donne un exemple, on va multiplier les patrouilles piétons sur les baies, on va travailler sur le lien avec les commerçants et le lien en centre-ville avec tous ceux qui participent à l'amélioration du cadre de vie, et je pense évidemment à la police municipale, et évidemment de travailler en profondeur sur les quartiers périphériques pour que les gens voient de la police.
Les derniers chiffres donnés ce matin à l'issue de cet état-major de sécurité concernent la justice. La crise insurrectionnelle du mois de mai a conduit à 2728 gardes à vue, à plus de 500 déferrements, à 250 incarcérations et à l'ouverture de 31 informations judiciaires ou encore à 50 mises en examen. Des chiffres sur lesquels nous reviendrons demain matin à 7h30. C'est en effet Yves Dupas, procureur de la République, qui sera notre invité du matin. Rendez-vous à 7h30 sur RRB.
Actualité judiciaire, le jeune homme de 23 ans qui comparaissait depuis hier devant les assises de Nouvelle-Calédonie a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont donc suivi les réquisitions de l'avocat général. Âgé de 20 ans au moment des faits, le jeune homme comparaissait pour avoir battu à mort un septuagénaire en octobre 2022. Le jeune homme s'en était violemment pris à la victime de 79 ans sur un boulodrome de Rivière-Salée après avoir perdu sa recette de 20 000 francs provenant de la vente de cannabis. Un dépôt de gerbes ce matin à la Croix de Lorraine, une cérémonie organisée à l'occasion de la journée européenne d'hommage aux victimes du terrorisme, en référence à l'attentat de Madrid 2004. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, le sénateur Georges Naturel, le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, ainsi que les représentants des autres institutions et des forces armées, gendarmerie et police, étaient présents ce matin. Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut Commissariat, était également présent et il a rappelé à cette occasion que la France ne cédera pas face au terrorisme.
C'est une journée particulière. C'est une occasion pour nous tous de nous rappeler qu'on ne doit pas céder. La France n'a pas cédé face au terrorisme. Elle n'a pas cédé dans son passé, elle ne cède pas aujourd'hui, elle ne cédera pas par la suite. La France reste unie, elle fait face, elle soutient les victimes et elle pourchasse les auteurs des actes de terrorisme. Cette démarche est la bonne et elle sera poursuivie partout. Malheureusement, les actes terroristes ne sont pas limités dans le temps. Et face à cela, il est important chaque année, effectivement, de se retrouver, de se rappeler des victimes et de conserver cette cohésion dans l'action. Face au terrorisme, la France n'a pas reculé par le passé et elle ne reculera pas dans l'avenir.
Durant cette cérémonie, ce matin, à la Croix de Lorraine, deux médailles ont été remises en hommage à des personnes qui se sont distinguées face au terrorisme.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Voici notre question du jour. Selon un sondage, 6 Français sur 10 sont favorables au rétablissement du service militaire obligatoire. Et vous, si vous y êtes favorable au rétablissement du service obligatoire, vous tapez 1. Si vous n'y êtes pas favorable, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 75% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les différentes manifestations organisées à l'occasion de la Journée internationale de la femme ne peuvent pas contribuer à l'amélioration de la situation des femmes calédoniennes. Ils sont 25% à être d'un avis contraire. Il est 17h54. On va marquer une première pause dans ce journal dans un instant. Bien sûr, la suite de l'actualité en Calédonie.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon, Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Cinef au soir, Lionel Sabot.
400 millions de francs d'aide accordés à la SEM Sud Habitat et à la SIC grâce à un partenariat signé entre le FSH et la Banque des Territoires. C'était cet après-midi, Léana Colombo.
Depuis le début des émeutes de l'année dernière, le modèle économique du territoire est fragilisé. Le Fonds social de l'habitat a donc reconduit cette année son partenariat avec la Banque des Territoires, actif depuis 2020, pour renforcer l'action des bailleurs sociaux. En 3 ans, 600 millions de francs ont été engagés versés par le FSH sous forme de bonification de prêt à taux zéro. Et contrairement aux années précédentes, ce dispositif ne servira pas ou peu à de la construction, mais plutôt à de la réhabilitation, explique Karl Ulm, président du conseil d'administration du FSH.
Naturellement, ce qui s'est passé le 13 mai, il y a une forte demande en non plus pour la construction, mais cette fois-ci, on passe à la réhabilitation, puisque les logements sont dans de mauvais états pour certains parcs. Donc, il y a de gros besoins. Donc, nous avons relancé cette année en rajoutant 120 millions, en ouvrant des droits plus larges. Et surtout, on vient de voter une subvention de 400 millions. Alors là, c'est carrément gratuit en plus. Donc, dès qu'un des deux bailleurs sociaux va avoir son prêt accepté par la Banque des Territoires, il aura en plus une subvention du FSH.
Ce fonds de soutien servira également de soutien au secteur du BTP, actuellement en grande difficulté, puisqu'il pourra donc permettre la construction ou réhabilitation lourde de 200 logements ou le gros entretien de près de 2000 logements. Selon Hervé Tonnerre, directeur des Outre-mer et directeur régional du Pacifique de la Banque des Territoires, ce dispositif est unique au niveau national. Il encourage donc tous les autres territoires d'outre-mer à en bénéficier.
Là, la Calédonie peut être fière, parce que c'est un dispositif, nous on considère que c'est comme un précédent et on est en train de travailler au niveau national pour inciter d'autres acteurs à faire comme le FSH, à faire un outil qui soit extraordinairement puissant, parce qu'on sait que dans les Outre-mer, le logement social, c'est un sujet premier. Et en règle générale, on dit ce chiffre qu'il y a à retenir, 80% de la population en Outre-mer relève du logement social. Et le social n'est pas que réservé à des publics très fragilisés, mais même un jeune fonctionnaire, un salarié de droit privé qui n'a pas un revenu exceptionnel, relève du logement dit social. Donc il faut faire de ça d'accession à la propriété. On peut déjà être propriétaire, mais souvent, moi jeune fonctionnaire, j'ai été dans du logement social.
Les fonds débloqués seront répartis à 50-50 entre les deux autres bailleurs sociaux que sont la SIC et la SEM Sud Habitat. Ce sera ensuite à eux de définir leurs besoins respectifs et d'utiliser ce dispositif en conséquence.
Dans l'actualité également, une baisse inédite de la consommation électrique en Nouvelle-Calédonie. Les violences de mai ont évidemment eu des répercussions sur l'activité du fournisseur d'électricité, à la fois sur la partie métallurgie où l'activité industrielle a été fortement ralentie. Cela a entraîné une baisse significative de la consommation électrique, passant de 3200 gigawatts les années précédentes à 1905 gigawatts en 2024. Et la consommation domestique a aussi évolué défavorablement avec une baisse de 7,5% de la consommation. Jean-Gabriel Faget, le directeur général d'Enercal.
Ça constitue une rupture à la fois parce que la métallurgie a moins bien fonctionné, notamment avec l'arrêt de KNS, la baisse de consommation de la SLN et l'arrêt pendant plusieurs mois de PRNC. Principalement des difficultés à accéder à certains sites industriels ou à opérer normalement, on le sait, les mines et certaines usines. Et puis d'une façon générale, le ralentissement économique en lien avec la crise. Et puis aussi ce qu'on appelle nous la distribution publique, c'est-à-dire les clients en dehors de la métallurgie, qui ont vécu une année 2024 très compliquée avec une baisse des consommations, effectivement. On a noté que, à la fois sur les concessions du distributeur EEC et du distributeur Enercal, une perte de 2000 contrats par comparaison aux 115 000 que l'on avait avant la crise insurrectionnelle. Donc, effectivement, des contrats qui ont été résiliés pour différents motifs, ou bien des gens qui ont quitté le territoire, ou bien plus certainement des gens qui ont quitté l'agglomération.
Avec l'arrêt de KNS, le charbon est passé de 55% du mix énergétique industriel à 13%. La part du pétrole de la CAT, notamment, a donc augmenté proportionnellement, passant de 26 à 70%. Mais dans l'ensemble du mix, la métallurgie consomme toujours la même proportion d'énergie carbonée, à hauteur de 80%, et 20% d'énergie renouvelable avec le solaire et l'hydroélectricité. L'orientation de l'activité d'Enercal dépendra évidemment de la relance du secteur industriel.
L'orientation dépendra de la pérennité des activités industrielles de la métallurgie du nickel. Donc, selon qu'il y aura deux, une ou trois usines de transformation de nickel en Nouvelle-Calédonie, on aura plus ou moins de consommation et ça façonnera différemment le système électrique, sachant qu'on ne perd pas de vue que un des moyens de faire gagner en productivité la métallurgie, c'est de lui apporter de l'énergie décarbonée à prix mieux maîtrisé. Et ça sera le gros enjeu de l'accompagnement des mois qui viennent dans les perspectives de reprise ou de continuité d'activité des trois usines. On a des visions assez claires et elles sont partagées par beaucoup sur les solutions à mettre en œuvre. Production thermique avec du gaz, beaucoup de photovoltaïque, mais certainement aussi beaucoup de stockage, et notamment les STEP, donc du stockage hydroélectrique. Tout ça dépendant de la capacité à avoir des consommations de la métallurgie durable, puisque ce sont des investissements très significatifs qui ne trouvent leur rentabilité que dans des durées longues.
L'année 2024 aura aussi été marquée par des décisions du Congrès importantes pour Enercal. Les trois augmentations de tarifs de l'ordre de 10% devraient rééquilibrer le système électrique calédonien qui est structurellement déficitaire. Le gouvernement s'est par ailleurs engagé à apurer sa dette historique liée à la composante de stabilisation. Une économie calédonienne profondément affectée et confrontée à une absence de perspective. L'Institut des missions Outre-mer a publié sa note conjoncturelle trimestrielle. L'Institut revient sur les tendances entre septembre et décembre 2024. Charlotte Coulson.
Et l'indice du climat des affaires est toujours très bas. L'ICA, qui représente le niveau de confiance des chefs d'entreprise en l'avenir, avait atteint son plus bas historique à la suite des émeutes du deuxième trimestre 2024. En fin d'année, il progresse légèrement de 3,3 points, mais reste faible. Même si la situation sécuritaire du territoire s'est améliorée, l'Institut indique que c'est l'absence de perspectives politiques précises qui freine l'investissement des entreprises. Il ajoute dans sa note que 42% des entreprises craignent encore une défaillance dans un horizon de 12 mois. Dans ce contexte, les indicateurs sur l'emploi poursuivent leur nette dégradation. Plus de 11 000 emplois pourraient avoir été détruits entre le premier et le quatrième trimestre 2024, sur un total de 66 588 emplois salariés. Au début de l'année 2024, le secteur du BTP notamment est toujours à l'arrêt, avec un fort pessimisme des professionnels quant à l'avenir du secteur, indique l'IEOM. L'indice des prix à la consommation est quant à lui en légère hausse. Les prix augmentent de 0,6% entre septembre et décembre. Par ailleurs, la consommation des ménages ne s'est pas effondrée en fin d'année, même si elle n'a pas rattrapé le retard pris en mai et juin de l'année passée. Malgré tout, quelques indicateurs pourraient esquisser une amorce de reprise, notamment la légère hausse des prêts octroyés aux ménages ou encore le nombre de croisiéristes visitant le territoire qui a timidement augmenté entre septembre et décembre 2024.
Remplir sa déclaration de revenus 2024, c'était le thème du magazine Citoyen. En présence d'Éric Ferré, chef du service de la fiscalité des particuliers de la direction des services fiscaux et son adjoint Christopher Nguyen. Ils ont répondu à toutes vos questions posées en direct pendant l'émission ou par mail. En début d'émission, Éric Ferré a parlé d'un changement pour une partie des Calédoniens qui font leur déclaration en format papier et qui n'ont pas reçu leurs documents pré-remplis par voie postale comme les années précédentes.
Cette année, en raison des très grandes difficultés budgétaires que rencontrent les collectivités, les déclarations papier n'ont pas pu être envoyées à un certain nombre de personnes. Sur un public d'à peu près 60 000 déclarants au format papier, 10 000 déclarations n'ont pas pu être envoyées. Alors, il a fallu trouver un critère pour sélectionner ces 10 000. C'est toutes les personnes qui avaient sur leur avis d'imposition de l'année dernière, avis d'imposition 2023, un revenu net du foyer supérieur à 2 500 000 francs CFP. Pour ces personnes-là, elles ne recevront pas l'imprimé. Donc, elles devront soit essayer de passer au service en ligne qui existe et qui offre beaucoup d'avantages, soit se procurer elles-mêmes la déclaration au format papier. Le plus simple pour ne pas se déplacer, c'est de l'imprimer à partir de notre site Internet de la Direction des services fiscaux. Pour les personnes qui n'ont pas d'accès à Internet, se déplacer dans nos locaux à Nouméa, à Koné ou bien en mairie.
Et les personnes qui déclarent leurs revenus en format papier doivent remettre leur déclaration avant le 31 mars. Le délai est un peu plus long pour les Calédoniens qui choisissent la voie numérique. Les habitants de Nouméa ont jusqu'au 20 mai inclus pour adresser leur télédéclaration aux services fiscaux et jusqu'au 27 mai inclus pour les autres habitants des autres communes de Calédonie. Le groupe UCFLNKS est nationaliste au Congrès, s'inquiète de la situation des artistes sur le territoire. L'application de la loi du pays votée en 2023 permettant le versement d'une redevance à certains artistes a plusieurs fois été retardée par le gouvernement, Charlotte.
La loi relative à la rémunération pour copie privée, c'est en fait une redevance prélevée chez les fabricants ou les importateurs de certains matériels comme les smartphones ou disques durs externes, du matériel qui permet d'enregistrer et donc faire des copies d'œuvres musicales musicales et audiovisuelles au détriment d'une partie des droits versés aux auteurs-compositeurs. Cette redevance de la copie privée avait donc pour but d'être distribuée aux artistes comme contrepartie du préjudice subi. Seulement en août 2024, le gouvernement Mapou avait pris un moratoire pour retarder de 3 mois la collecte de la redevance chez les importateurs à la suite des émeutes. La SACINQ, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie, n'a donc pu commencer à la prélever qu'au début du mois de décembre. Puis en février 2025, un second moratoire rétroactif et sans délai a été accordé aux importateurs. Une décision que le groupe UCFLNKS et nationaliste, représenté par Marie Waka, ne comprend pas.
La difficulté de ce moratoire qui a un effet rétroactif et dans lequel on n'a pas de délai. On ne sait pas si ça dure 1 an, si ça dure 3 mois, si ça dure 1 semaine. Et bien se poser la difficulté des redevances qui ont été collectées par la SACINQ à partir de novembre à décembre, janvier et février, qui a certainement été reversée aux artistes, parce que nos artistes vivent aussi de cela. Et la difficulté qui se pose, c'est comme on n'a pas plus d'informations sur le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est de cette redevance qui a été collectée. Est-ce que c'est la SACINQ qui doit rembourser? Enfin, on a un certain nombre de questions. Et on voulait juste rappeler au gouvernement que les moratoires qui ont été pris dans leurs espaces de décision n'ont aucun fondement juridique, parce que la loi de pays ne prévoit pas ce type d'exercice. Et donc, on se pose la question du fondement juridique de la démarche.
Cette demande de moratoire avait été adressée au gouvernement le 23 juillet 2024 par le MEDEF, le syndicat des importateurs et distributeurs et le syndicat des commerçants. Le second moratoire a été accordé par le président du 18e gouvernement, Alcide Ponga, le 7 février 2025.
Il est 18h06, on marque une dernière pause dans ce journal à suivre l'actualité dans la région, le sport et la météo.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme ECO permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Lionel Sabot.
Et l'actualité dans la région Pacifique. L'ambassade de Russie à Canberra réagit négativement aux propos du Premier ministre australien Anthony Albanese, qui a laissé entendre qu'il était prêt à envoyer des troupes en Ukraine dans le cadre d'une éventuelle mission de maintien de la paix. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a indiqué qu'il était, je cite, « encore trop tôt » pour discuter d'un éventuel déploiement de troupes australiennes en Ukraine, dans la mesure où, je le cite à nouveau, on ne peut pas avoir de mission de maintien de la paix sans avoir la paix. Il a néanmoins rappelé que l'Australie a déjà débloqué 1,3 milliard de dollars, soit près de 90 milliards de nos francs, en aide militaire directe à l'Ukraine. Dans une note plutôt agressive, l'ambassade de Russie à Canberra a déclaré que ce possible déploiement, je cite, « entraînerait de graves conséquences », avant d'accuser l'Australie d'être, je cite à nouveau, « fermement du côté de la guerre ». Une fois de plus, a poursuivi le communiqué, « la présence de troupes occidentales sur le terrain est inacceptable et nous ne resterons pas les observateurs passifs. Canberra peut facilement éviter les ennuis en s'abstenant simplement de tout aventurisme irresponsable dans la zone de l'opération militaire en cours, a conclu l'ambassade. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
L'actualité sportive à présent est du cricket féminin sur le territoire et des débuts compliqués pour l'équipe de France ce matin au tournoi international. Jean-François Bonnard.
Oui, effectivement, l'équipe de France composée, je vous le rappelle, en intégralité de joueuses calédoniennes s'est lourdement inclinée face aux Vanuatu, défaite 123 à 45. Les Vanuatesses ont fait parler leur expérience sur la pelouse du stade Ndu face à des calédoniennes qui disputaient leur premier match de cricket international en compétition. Harmonie Connue, joueuse de l'équipe de France, a marqué 8 points ce matin.
Les Vanuatesses en meilleure forme qu'hier. Elles étaient beaucoup en réussite et nous, ce qui a manqué, c'est d'attaquer nos balles. D'attaquer nos balles et puis de taper en bas. C'est une première pour nous et elles ont fait une belle démonstration sportive qu'on va essayer de prendre ce qu'il y a de positif chez elles pour pouvoir le mettre en application contre Samoa demain.
Et le positif pour vous, c'est que c'était un premier match, c'est quand même une belle expérience.
Oui, complètement, c'est que du positif. Donc on est satisfaite, c'est une première pour nous les Calédoniennes et on voudrait prendre plaisir encore demain.
Des propos recueillis par Léo Fichou. Les Calédoniennes rejoueront donc demain matin 8h30 contre les Samoa.
Et puis un mot de golf, Ariane Klotz est de passage dans la région. La Calédonienne est en Australie où elle va disputer et participer à plusieurs tournois du circuit professionnel féminin. Après un premier tournoi au Maroc en demi-teinte, Ariane Klotz a hâte de participer non loin de chez elle.
J'étais super impatiente de commencer, surtout ici en Australie où je connais le climat et le pays. Malheureusement, le premier tournoi a été annulé à cause du cyclone Alfred. On a eu beaucoup trop de pluie et les organisateurs ont préféré annuler le tournoi. Donc le retour à la compétition se fera que cette semaine, vendredi je crois. Concernant le premier tournoi sur le let que j'ai joué donc au Maroc, le positif est que j'ai réussi à passer le cut alors que j'ai bataillé avec moi-même sur le parcours. Je jouais nettement moins bien que d'habitude au niveau de la frappe de balle, qui est donc mon point fort normalement. Donc plutôt contente d'avoir réussi à passer le cut, mais déçue de ma fin de tournoi. D'un côté, ça m'a donné des axes de travail pour la suite. Donc voilà, je me suis entraînée sur les points à travailler que j'avais noté pendant ce tournoi. Mais du coup, j'ai d'autant plus envie de recommencer la compétition cette semaine.
Irene Klotz, rendez-vous dès vendredi sur la Gold Coast pour l'Australian Wade PGA Championship. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Alors, cette nuit, sur la côte ouest, le ciel finira par être bien étoilé. Ailleurs, il sera passagèrement nuageux, avec quelques ondées sur la pointe nord, puis l'île des Pins en fin de nuit. L'alizé d'est-sud-est atteindra 15 à 22 localement sur la pointe nord-est et Bélep, 20 à 25 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Sur la façade de l'ouest, le vent faiblira autour de 10 nœuds. Les températures minimales évolueront peu, entre 19 et 21 degrés sur l'ouest. L'île des Pins marée et l'Ifou. Ailleurs, elles seront comprises entre 22 et 25 degrés. Demain matin, sur l'est, la pointe nord et aux loyautés, belles éclaircies. Sur la pointe sud et surtout sur l'île des Pins, les passages nuageux seront plus nombreux avec une averse possible. Le temps sera ensoleillé sur l'ouest. Le vent de secteur est atteindra 10 à 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord et Bélep-Lionel.